Alors c'est là où ça se complique, parce que vous voyez qu'il y a une infinité de chaises, donc je demande à l'infinité d'intervenants qui sont annoncés à la fois pour le Conseil national, pour le Conseil d'éthique, le Centre de ressources et puis tous les porteurs de projets de bien vouloir me rejoindre sur scène. Je pense pas qu'il y ait de plan de table. Je vous propose une dichotomie. On va mettre on va peut-être segmenter quand même un peu. On va mettre les porteurs de projets par ici. On va mettre le garant de l'éthique ici, avec son l'autre éthicien à ses côtés, les ressources juste à côté. Vous voyez que c'est pas...
Je vous rappelle, c'est un conseil scientifique et éthique.
Oui. Donc, les scientifiques et éthiciens. Voilà, vous voyez qu'on n'est pas parfait raccord pour la parité. Je me jette moi-même la pierre, le premier, évidemment.
Il y a même une ségrégation, là.
Voilà. On peut mélanger ? Oui, bah, de toute façon, on n'arrivera pas à alterner comme il faut. Bien, on est au grand complet. Je vais me mettre... Oh. Voilà, je vais me mettre par là, comme ça, je vous vois tous. Donc, Jean-Claude Amaizen, Axel Kahn a défriché... un petit peu votre rôle ici. Quand vous n'êtes pas avec nous à la FIRA, vous êtes président du Conseil national, Comité national d'éthique. Vous êtes aussi sur les ondes avec les épaules de Darwin. Vous écrivez des livres. En fait, vous avez quand même un peu un emploi du temps de stakhanovice. Donc, pourquoi est-ce que vous avez accepté ? Est-ce que Axel Kahn a des secrets inavouables sur vous ? Ou est-ce que vous ne pouviez pas refuser sa proposition pour des motifs plus scientifiques ?
Je crois, comme il l'a très bien dit, je crois que c'est. Alors, je pense que c'est une expérience non seulement qu'on ne peut pas refuser, en tout cas dont je considérais qu'on ne peut pas la refuser, mais je crois qu'elle est particulièrement originale et particulièrement importante. Je fais partie de conseils scientifiques, de comités d'éthique. Il y a dans ce comité d'éthique et ce comité scientifique, qui au départ étaient d'ailleurs deux comités complémentaires et qui sont devenus un comité, ce qui est très intéressant, je pourrais vous en dire un mot, il y a quelque chose de très particulier. Il y a des instances où on évalue la qualité de la recherche. Il y a des instances où on évalue les approches éthiques. Il est très rare, en tout cas moi j'ai jamais connu, de lieux, d'instances dans lesquels on croise une évaluation de la recherche et puis une évaluation de la recherche non seulement sur sa qualité scientifique, sur le caractère reproductible, original et important de ce qu'elle peut produire, mais sur le fait qu'elle va avoir une composante et une dimension éthique. C'est-à-dire que parmi les critères qui seront évaluables, il y aura le fait qu'il y ait pu avoir une amélioration de l'accès des personnes à leurs droits fondamentaux. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement particulier qui croise ce qui d'habitude se fait dans des lieux, dans des instances différentes et qui rend difficile, voire très rare, le fait d'appréhender ces éléments, ces dimensions dans une même approche. Donc je crois que c'est pas seulement le fait que c'est très important, que le sujet est important, que c'est une urgence. C'est aussi que c'est une façon de penser à l'appropriation par les personnes en situation de handicap de leurs droits, de leur insertion dans la société, d'une manière totalement originale. Et parce que c'est une manière totalement originale, je crois qu'elle peut, en tout cas c'est ma conviction, aboutir à des résultats que des approches plus classiques, aussi importantes soient-elles, ne peuvent pas obtenir. Alors, ce que je vous disais, un mot, un comité scientifique, un comité d'éthique, qui déjà, dès le départ, était basé sur une approche de complémentarité et de pluralité. Donc, dans le comité scientifique, il y avait des scientifiques et il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas là parce qu'elles étaient des scientifiques, qui étaient des membres d'associations, qui avaient d'autres activités, d'autres regards. Et inversement, dans le comité d'éthique, il y avait des personnes qui étaient des scientifiques. Et lorsqu'on a, la première année, commencé à examiner les projets avec cette double grille de lecture complémentaire, la qualité, l'importance et l'originalité de la recherche et les implications qu'elle pouvait avoir pour les personnes, on s'est aperçu, en se réunissant en parallèle, qu'on était arrivé à la même évaluation. Et donc, on s'est dit, au fond, que prendre en compte ces éléments, ces éléments de manière croisée, eh bien, on pouvait le faire en fondant ce comité éthique pluriel et ce comité scientifique pluriel en un comité éthique et scientifique. Donc là aussi, je crois que c'est une originalité assez profonde. L'idée au départ était que le regard éthique et le regard scientifique seraient complémentaires. En fait, ils faisaient partie de la même approche.
Avant que votre voisin de gauche ne détaille un petit peu plus les critères, d'ailleurs, Éric Plaisance, vous pouvez attraper un micro juste devant vous, si vous voulez. Donnez-nous un peu mieux à voir ce conseil scientifique pour ceux qui ne le connaissent pas. Qui est-ce qui le compose ? Est-ce qu'il y a une pluralité d'interlocuteurs ?
Alors, il y a une pluralité, je dirais, dans la formation. Il y a des scientifiques, il y a des membres d'associations, il y a des personnes qui sont impliquées dans les sciences humaines et sociales. Il y a une particularité qui est qu'il y a des personnes en situation de handicap et des personnes qui font partie d'associations. Et donc là encore, c'est une vision qui est globale, qui n'est pas séparée. Et il a une caractéristique qui, là aussi, n'est pas extrêmement fréquente lorsqu'il s'agit de se poser ce type de questions. Il est international. Et donc, c'est un comité avec un regard international, un regard pluriel, y compris international, au-delà des frontières de l'Europe, et qui prend en compte des projets qui sont des projets internationaux qui viennent de partout, qui viennent de notre pays, qui viennent d'Europe, qui viennent du monde entier. Et donc, il y a une idée, je crois, profonde, qui est non seulement que le fait de soutenir des projets de qualité qui peuvent apporter quelque chose dans l'amélioration de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap est une mission fondamentale, mais il y a l'idée aussi que cette dimension internationale a un côté pédagogique. C'est-à-dire que le type de projet qui est soutenu, les raisons du soutien du projet, ce qu'il va apporter dans notre pays ou dans d'autres pays, sera utile, je dirais, indépendamment de ce qu'a été spécifiquement ce projet. Et dans le croisement centre de ressources dont parlait Axel Kahn, il est évident que ce qui se fait dans le monde, que ce soit au niveau du comité scientifique quand c'est pris en compte, ou que ce soit les projets quand ils sont soumis par d'autres pays, est extrêmement utile. Parce que savoir ce qui est le plus souhaitable et ce qui est le plus important demande, encore une fois, de pouvoir le comparer et l'insérer dans ce qui se fait de mieux au niveau international.
Alors, avant que votre voisin ne prenne le relais, juste puisque vous m'y invitez, quand vous dites ce qui se fait de mieux à l'international, est-ce que comme ça, il y a une petite anecdote, un projet qui soit porté par un pays qui ne soit pas la France, où vous vous êtes dit, bah, là c'est génial, puisque vous dites ailleurs, parfois il se passe des choses très bien.
Oui, je laisserai Eric répondre, mais je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a dans tout... Alors, prenons des sujets. Hein, prenons l'accès à la scolarisation, à l'éducation des enfants. Prenons l'accompagnement des personnes dans une situation difficile par des pairs. Et on va voir que dans différents pays, il y a peut-être pas de pays qui soient... On a souvent cette illusion ou cette idée qu'il y a des pays qui sont... Alors, il y a des pays qui sont plus avancés que nous, il y a des pays qui sont moins avancés, mais il n'y a pas de pays parfait. Il y a des expériences intéressantes, extrêmement importantes ou extrêmement utiles, qui se font dans un pays, qui peut être un pays pauvre, qui peut être un pays où il y a énormément de difficultés, mais où, par exemple, des mécanismes de solidarité sociale, culturelle, familiale, vont faire que l'insertion de certaines personnes sera approchée par des moyens qui nous paraissent pas d'emblée les meilleurs. Donc, suivant l'expérience, il y aura tel ou tel pays qui va développer des expériences qui sont extrêmement intéressantes et dont on peut se dire que si elles étaient transposées dans notre pays, elles pourraient donner des résultats tout à fait importants.
Merci. Éric Plaisance ?
Oui, j'ai caché le micro ici, mais je peux le redonner, Jean-Claude.
Alors, oui, il y a quelques années, c'était un travail déjà palpitant, mais encore relativement serein, puisque la FIRA recevait un peu plus d'une vingtaine de lettres de projet. Et là, si je prends les derniers chiffres que m'a donné Philippe Chervant, on est passé à 160, donc on va bientôt pouvoir parler du burn-out des membres du comité d'éthique et scientifique. Et donc, dans ces cas-là, face à cet afflux massif, il est plus que jamais nécessaire d'avoir des critères très objectifs pour savoir lesquels on retient et comment on hiérarchise. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe ? Faites-nous rentrer dans la cuisine du comité.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a à la fois le problème des critères, bien entendu, mais il y a aussi le travail intensif hein, que les collègues doivent remplir. Parce que, bon, pour rappeler rapidement, hein, la manière dont on a pu travailler, dont on travaille encore, hein, on reçoit des lettres d'intention. Et donc, Là, pour 2013, nous en avons reçu près de 160. Hein, je crois que c'est 152, très, très exactement. Et à partir de là, il y a déjà une sélection, hein, à partir d'expertises qui se font d'abord, je dirais, à domicile ou dans son laboratoire. Et ensuite, il y a une séance complète avec l'ensemble des membres des comités ou du comité, hein, comme l'a dit Jean-Claude Ameisen, un comité qui finalement fonctionne avec les deux éléments éthiques et scientifiques. Et puis ensuite, à partir de cette sélection, on demande effectivement aux porteurs de lettres d'intention d'élaborer, hein, de manière plus forte, plus solide et de manière plus complète, hein, avec toute une série de détails, d'élaborer véritablement des projets, hein, comme on le trouve effectivement dans beaucoup d'instances scientifiques. Et c'est à partir de là, hein, qu'il y a un nouveau travail. Donc on a travaillé sur à peu près 25 projets, hein, qui ont été des projets finalement élaborés, et on en a retenu, si je me souviens bien, à peu près une quinzaine, ces projets étant à leur tour hiérarchisés, hein, et donc pour des raisons que le président Kahn a rappelé tout à l'heure, avec les restrictions budgétaires, finalement il y en a eu 6, hein, qui ont été retenus. Donc il y a tout un travail effectivement de sélection, mais qu'il ne faut pas prendre dans un sens négatif, hein, mais parce qu'il y a des éléments de sélection à la fois sur les critères éthiques et scientifiques, et en même temps une difficulté dans la mesure où il y a beaucoup de projets qui étaient des projets de qualité, et finalement il y en a eu 6 qui ont été retenus. Donc ça, c'est quand même un élément tout à fait important à retenir. Je voudrais aussi dire deux mots sur la manière dont le comité a travaillé. Ce qui m'a vraiment frappé, hein, dans la manière dont nous avons travaillé, c'est que contrairement à d'autres instances, par exemple des instances que l'on connaît bien, enfin, des instances universitaires ou des instances CNRS ou INSERM, souvent ça aboutit à des votes. Hein. Des votes parce qu'il y a des dissensions, il y a des tendances, il y a parfois des, il faut le dire quand même, certaines luttes de pouvoir, hein, qui peuvent exister dans ces instances. Et donc, à un moment donné, le président de séance, hein, dit, bah oui, finalement, il y a des divergences, mais on va voter finalement et on va voir ce que ça donne. Nous n'avons jamais voté. Hein. Alors ça me semble tout à fait frappant. Nous n'avons jamais voté parce que finalement, après des discussions qui parfois ont été approfondies, parfois il y avait des divergences, bien entendu, mais nous avons abouti à chaque fois à des consensus. Et ça me paraît quand même un trait tout à fait remarquable et qui rejoint aussi une dimension éthique. Hein. Nous aboutissons à des consensus parce que nous sommes sur le fond d'accord sur une certaine hiérarchisation des projets que nous considérons comme les meilleurs. Donc ça me semble vraiment très très important à signaler.
L'autre point très important, quand on reçoit l'ensemble des chiffres sur les projets retenus par la FIRA, outre qu'il y en a de plus en plus, c'est que malgré tout, on garde à la fois une grande hétérogénéité géographique. Vous le disiez à l'instant, vous avez beaucoup de projets. Je crois qu'on est à peu près dans les trois tiers entre la France, l'international, les pays en voie de développement, je crois. Hein. Et en même temps, une très grande hétérogénéité dans le type de famille de handicap et sur les applications pratiques. Donc, comment est-ce que de cette diversité initiale, et forcément les membres du comité ont une direction personnelle pour tel ou tel sujet, comment est-ce que vous aboutissez à ce consensus ?
Effectivement, il peut y avoir des collègues dans le comité qui se trouvent particulièrement intéressés par tel ou tel projet. Hein. Je ne sais pas, un projet qui porterait, par exemple, je vais dire un exemple, je ne sais pas si c'est présenté, un exemple concernant les personnes sourdes ou un exemple concernant, je ne sais pas, des personnes avec des infirmités motrices cérébrales, etc. Oui, bien sûr, cela peut arriver. Mais encore une fois, les critères qui jouent, ce sont les critères, un, de qualité du projet, hein. Deux, bien entendu, hein, de la dimension éthique qui est présente dans les projets, mais de manière alors plus précise, allons vraiment vers des détails, puisque c'est ce que vous souhaitez, hein, de manière concrète, qu'il y ait dans chaque projet l'implication de personnes ou de représentants de personnes en situation de handicap. Bien entendu, c'est préférable si ce sont des personnes elles-mêmes, mais vous savez que dans un certain nombre de cas, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il peut y avoir une représentation des personnes par le biais d'associations, par exemple. Hein. Ça, c'est ce que nous souhaitons, en tout cas, dans tout projet. Et puis, deuxième dimension, hein, c'est la dimension, évidemment, en recherche. C'est-à-dire qu'il y a une équipe de recherche, hein, qui peut se situer, hein, dans une université, qui peut se situer, hein, dans un organisme scientifique, et ça dépend évidemment des pays, et que, en tout cas, ces deux dimensions hein, soit effectivement présente dans le projet. Et dans les 25 retenus, hein, finalement, à partir des lettres d'intention, cela était clairement visible. Si ça n'était pas encore visible, dans certains cas, c'est vrai que ça n'était pas toujours parfait. Et il y a des lettres de recommandation, des messages de recommandation du comité pour que, dans le projet définitif, effectivement, on trouve ces deux dimensions. Et donc, j'ajoute, hein, je viens de le faire d'ailleurs, que dans le travail que nous accomplissons, il y a aussi des recommandations qui sont faites aux équipes et même des recommandations pour les 6 projets qui sont retenus, en disant, nous pourrions effectivement prolonger, aller plus loin dans le sens qui serait, par exemple, de comparer avec un autre type de population ou d'avoir une collaboration, par exemple, avec une équipe de recherche française qui travaillerait sur le même sujet. Donc, sur les 6, on fait encore des recommandations.
Oui, allez-y. Pour aller dans le sens de ce que dit Eric, hein, c'est indépendamment du sujet et du problème, c'est que ça soit un projet de recherche qui est fait pour et avec les personnes en situation de handicap. C'est pas pour sans qu'elles soient présentes, c'est avec. Et donc c'est l'association de personnes en situation de handicap ou d'associations avec des chercheurs. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Et quand vous me demandiez des exemples, je me rappelle d'un projet en Espagne, par exemple, dans lequel tout était mis en œuvre pour que les personnes qui se présentaient, qui étaient en situation de handicap, qui se présentaient devant la justice, puissent s'approprier et être accompagnés réellement, non pas représentés, mais être véritablement partie prenante au processus judiciaire. Il y avait d'autres projets en Europe et dans le monde dans lesquels, par exemple, des établissements fermés où habitaient des personnes en situation importante de handicap se transformaient avec ces personnes et avec les associations en lieux d'habitation ouverts à l'intérieur de la société. Donc, Il y a, je dirais, dans quelle mesure est-ce que non seulement c'est susceptible de transformer profondément la vie des personnes handicapées, mais dans quelle mesure, et c'est aussi cette dimension pédagogique, c'est fait par et avec des personnes en situation de handicap. Et donc cette recherche, elle est tissée étroitement avec les personnes. Les chercheurs apportent des compétences que les personnes ou les associations n'ont pas en termes de projet, mais les associations ou les personnes sont partie prenante de ces changements. Alors, dernier point peut-être, parce que quand c'est peut-être aussi ce qui explique ce consensus. Moi, ce qui m'a énormément frappé, c'est que, en tout cas, j'ai énormément appris, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois que nous nous réunissions, nous approfondissions nous-mêmes à la lumière des projets qui nous étaient soumis, la méthodologie d'évaluation que nous construisions. Donc, c'est vraiment une méthodologie, je dirais, évolutive en fonction de la diversité des projets que nous recevons. Il y a des questions que nous ne nous étions pas posées et que nous nous posons d'un seul coup parce qu'un projet arrive qui ne correspondait pas à ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Donc je pense qu'il y a aussi au niveau même du comité scientifique et éthique, je dirais que ce que nous avons fait a eu un impact pédagogique en ce qui concerne la manière dont nous-mêmes à la fois évaluons mais prenons en compte les problèmes qui se posent et les solutions possibles.
En vous entendant parler de cette expérience espagnole, ça me rappelle, pour reprendre les propos d'Axel Kahn au début, sur le besoin d'encourager la recherche dans le handicap, qu'effectivement, souvent, les innovations qui sont trouvées dans le champ du handicap l'excèdent très largement, puisque quand on y pense, le but de démocratiser le langage judiciaire, je pense que de nombreuses personnes non porteuses de handicap y trouveraient un gros avantage. De la même façon que, si vous voulez, le SMS, à la base, a été conçu par les personnes sourdes, et j'imagine qu'un grand nombre de personnes entendantes ont déjà utilisé un SMS dans leur vie.
Alors, je me rappelle que France Télécom disait que l'un des appareils portable qui avait eu le plus de succès il y a quelques années était un appareil qu'ils avaient conçu pour des personnes qui avaient un handicap sensoriel et qui était tellement facile d'utilisation que la plupart des gens l'utilisaient, parce que quand c'est plus facile, quand on a un problème sensoriel, c'est plus facile pour tout le monde. Un point peut-être aussi, parce que on parle des personnes en situation de handicap, du fait que le handicap évolue, mais avec l'évolution là aussi et l'augmentation d'espérance de vie, je veux dire, la situation de handicap est quelque chose qui peut nous arriver à tous. Et donc, penser à l'accessibilité, à l'inclusion sociale, c'est penser à notre vie à tous, quelle que soit la situation dans laquelle on est à un moment donné. Un habitat, un appartement qui est accessible, c'est très bien pour une personne en situation de handicap, mais pour une personne qui n'est pas en situation de handicap, si le handicap arrive, eh bien, ça lui permet de continuer à vivre à domicile et de ne pas être obligé de se déplacer. Donc il y a vraiment, je crois, dans cette idée d'inclusion, il y a non seulement l'inclusion indispensable des personnes qui sont aujourd'hui en situation de handicap, mais il y a la capacité de chacun, pour chacun, de vivre en se projetant dans un avenir incertain.
Vous vouliez rajouter une anecdote avant qu'on passe aux deux porteurs de projets qui sont venus avec nous pour vérifier qu'ils ont bien rempli les critères ?
Anecdote, enfin, non, je n'avais pas en tête là une anecdote, mais j'avais en tête un autre exemple sur ces problèmes d'accessibilité qu'on appellerait maintenant avec cette expression issue de l'anglais accessibilité universelle, mais qui est reprise effectivement par un certain nombre d'organismes en France et représentatifs des personnes en situation de handicap. Un exemple, c'est quand même les transports, enfin les transports qui fonctionnent bien. Il y en a beaucoup qui fonctionnent très mal en particulier sur Paris. Mais si on prend les tramways, les nouveaux tramways, on voit bien que les annonces orales et les annonces écrites sont utiles pour tout le monde.
Le cerveau distrait, oui.
Ah bah oui, c'est fondamental pour tout le monde.
Merci pour cette anecdote. On va passer au porteur de projet. On ne pouvait pas venir avec...